La tambouille politique, c'est ce que voudrait organiser François Bayrou, qui soutient Alain Juppé à Bordeaux.
Qui appuie M. Albertini à Rouen. Qui voudrait permettre que le modèle soit présent sur toutes les villes de France, tout en faisant déjà rentrer telle ou telle.
Allez comprendre.
Marielle de Sarnez, parlons des municipales. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que la représentante du Modem figure sur la liste UMP de Serge Dassault à Créteil.
Ouais, moi aussi.
Allez comprendre.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette toute première de Politique Addict. Autour de la table, que des jeunes passionnés de politique. Et notre invitée, tout aussi jeune et tout aussi passionnée, celle qui enflamme la blogosphère et que l'on remercie mille fois d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de cette nouvelle émission, Kitry Delmas, déléguée nationale du Modem. Elle va nous expliquer la tambouille politique de Bayrou, comme vient de le dire François Hollande. Elle va nous dire, j'espère, pourquoi Marielle de Sarnez n'a pas voulu d'elle à Paris. Elle va aussi peut-être nous en dire plus sur cette nouvelle offre politique dont, pour l'instant, nous n'avons vu que la couleur, le orange. Politique Addict première, c'est parti, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Kitry Delmas.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. D'avance, pardon pour les petits problèmes qu'on va avoir. Hein. C'est une première, il va falloir être tolérant. Je ne suis pas seul à animer cette émission. Laissez-moi vous présenter la bande de Joyeux Lurons qui m'accompagne. Et d'abord, bonsoir Xavier.
Bonsoir Thomas, bonsoir Kitry. Ce soir, je vais passer de la droite à la gauche pour vous en dire un petit peu plus sur ce nouveau personnage politique.
Voilà, le portrait Xavier Plasson tout à l'heure. Bonsoir Carole, notre réalisatrice.
Bonsoir à tous, et moi je vais vous faire un petit quiz d'actu pour un petit peu tester vos connaissances, si vous avez suivi l'actualité de la semaine.
Voilà, ce sera tout à l'heure. Bérangère, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir Kitry. Ce soir, donc première émission, première leçon pour devenir un super citoyen du web.
On attend ça avec impatience, et puis enfin Philippe. Salut Philippe.
Salut Thomas, salut toute l'équipe, bonsoir Kitry. Moi, je vais essayer de sortir un petit peu des chroniques battues et je vais essayer de vous parler ce soir de Devoirs de mémoire et de Bob l'éponge.
Parfait, très bien.
Ça annonce la couleur.
Ça annonce la couleur tout de suite.
Si c'est pas du teasing, ça.
Restez.
Alors, Kitry Delmas, vous êtes, je le disais, un petit peu la marraine de cette émission. Je vais peut-être vous appeler marraine d'ailleurs ce soir. Vous avez 30 ans, c'est ça?
J'ai 29 ans, je vais bientôt 30 ans, effectivement.
Pas encore 30, ce sera pour quand?
Avril.
Grosse fête.
Mais je suis pas du tout contente d'avoir 30 ans aujourd'hui. Mais par contre, je suis très contente d'être là.
C'est un cap en politique, 30 ans?
Ben, c'est un cap parce qu'on peut plus tout à fait dire qu'on est très jeune, on peut pas non plus dire qu'on est très vieux. Donc voilà, je suis, quand on me dit que je suis jeune en politique, je réponds que je suis assez âgée pour élever mes enfants. J'en ai deux, payer un loyer, travailler, assumer toutes les responsabilités. Donc du point de vue des impôts, il n'y a pas d'âge pour en payer a priori à partir du moment où on est majeur et où on gagne sa vie. Donc je ne suis pas non plus une jeune en politique. En revanche, j'ai vraiment envie qu'une génération nouvelle se lève pour s'engager en politique, mais aussi pour s'engager et travailler dans les médias. On voit qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les médias, un peu généralisé. Moi,
vous avez envie de travailler dans les médias, vous-même?
Moi, j'ai pas du tout envie de travailler dans les médias, sauf si on décrète qu'Internet, et ce qui est vrai, est un média à part entière, mais c'est un média qui n'appartient, en tout cas, mon blog n'appartient qu'à moi et n'est que l'image de ce que j'écris. Et donc, pour moi, c'est effectivement un média, une façon de faire passer mes idées. Mais ce que vous êtes en train de faire ce soir, et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous, c'est aussi vous-même, essayer de montrer que quand on a notre âge, quand on a aussi des nouvelles compétences, quand on sait servir Internet, quand on a aussi dans notre génération un regard et un prisme différent sur l'actualité. Et donc voilà, j'ai envie de vous encourager, de vous souhaiter bonne chance pour cette émission.
Merci. Et c'est vrai qu'on va le voir tout à l'heure avec Bérangère, vous êtes une spécialiste du web, très présente sur le web, mais vous êtes aussi depuis peu déléguée nationale du Modem. Alors c'est quoi une déléguée nationale? Ça sert à quoi?
Alors, comme en politique, il y a beaucoup de titres qui ne veulent pas forcément dire beaucoup de choses. Ouais. En tout cas, c'était un geste fort fait par François Bayrou pour dire, voilà, Kitry Delmas et six autres personnes vont être nommées délégués nationaux. pas du tout, c'était donc une
Ah, c'est une nomination.
Tout à fait. Et c'était de dire, oui, il y a la nomination du comité exécutif, et manifestement, il y a des sénateurs qui ne voulaient pas voir de jeunes ou de représentants un peu de jeunes qui soient désignés dans ce comité exécutif. On ne mélange pas les torchons et les serviettes selon eux. Donc, du coup, il a été créé un statut un peu spécial qui est délégué national. C'est rien d'autre que de dire aux adhérents, on a envie de renouveler. On n'a pas les capacités de le faire aujourd'hui encore parce qu'il y a encore des verrous et des réticences de certains. Mais par contre, on a envie de montrer qu'il y a effectivement des nouveaux adhérents, des nouvelles pratiques politiques qui sont en marche. Donc on va nommer pour les représenter 6 délégués nationaux. C'est histoire de dire, voilà, d'avoir aussi... C'est des responsabilités en même temps parce que du coup, on parle au nom du mouvement. Enfin,
c'est important. C'est une certaine façon de vous adouber de la part de François Bayrou, de vous donner une légitimité.
C'est une certaine façon de dire que ce que je porte et les personnes que j'ai fédérées par ailleurs, des adhérents, que les messages de démocratie interne, de renouvellement de nos pratiques au sein du mouvement démocrate comptent à ses yeux.
Alors, Kitri, on va essayer d'en apprendre davantage sur vous avec le portrait de Xavier Plasson dans une seconde.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Et
je ne m'énerve pas. Je suis
qu'est-ce
en
que
colère.
Ça doit être quand vous êtes énervé ?
C'était très bien. C'était très bien.
Alors ça y est, nous sommes connectés et être connecté avec Kitri Delmas, ce n'est pas du 56 kilobits d'un modem version UDF, un modem comme celui qu'on trouverait par exemple chez un ancien président qui, ayant bien compris que les dîners chez l'habitant c'était bon pour le 20e siècle, quoique déjà au 20e siècle on s'interrogeait sur leur modernité, bref, un modem tout juste calibré pour un Valéry Giscard d'Estaing alimentant du bout de son mulot un soporifique blog sur la réforme des institutions européennes. Kitri, non ? Non, vous ne vous chauffez pas de ce modem-là, Kitri, vous êtes plutôt modem version 2008, mouvement démocrate. Vous êtes de ce fait un modem octéphage qui pompe de l'octet en veux-tu, en voilà. Du modem en fibre optique, celui qui vous télécharge illégalement un épisode de Desperate Housewives en 5 minutes. Je sais pas pourquoi je vous parle de Desperate Housewives, car vous êtes l'opposé de Kitri Van Die Kamp, vous savez, cette mère au foyer toute rangée qui passe son temps à repasser ses tentures. Certes, vous êtes maman de 2 bambins, mais vous êtes surtout femme moderne et par définition affranchie. Dans une vidéo trouvée sur le web, vous affirmez avoir ruiné les chemises de votre mari pour qu'il décide de les repasser lui-même. Mais revenons à notre modem, Kitri, parce que moi aussi je suis moderne, et que tout bon portrait, ou mauvais d'ailleurs, se doit d'être renseigné. J'ai donc googlisé votre prénom. Je suis tombé sur plein de sites sympas, et notamment celui de JP Delmas, ébéniste négociant depuis 1967. Avant de me rendre compte que j'avais tapé Litri Delmas au lieu de Kitri, probablement mon inconscient qui parlait, quand je regarde vos yeux verts, je suis plongé dans mes rêves, d'où la Litri. Vous sentez bien que je m'égare, et pourtant, Kitri, déjà, par votre prénom, vous suscitez l'intérêt. Votre prénom, oui, car pour ce qui est du nom, Kitri Villepin Delmas, inconnu au bataillon politique, j'ai bien trouvé un Dominique de Villepin devenu aigri professionnel, et un Chaban Delmas et sa nouvelle société. Non, Kitri, voilà bien plus intéressant. Un prénom original, vous en conviendrez, qui selon mes recherches étymologico-anthropologico-doctissimo.fr caractérise une personne très active, qui apporte joie et gaieté au quotidien. Et en 10 minutes d'émission, votre incessant sourire qui va à peu près de l'oreille droite à l'oreille gauche, qui nous amène au centre de la bouche, nous fait tous passez ici autour de cette table pour des rabat-joie. Curieuse Kitri vous surprendra par son savoir. Bon, ça c'est pour les 50 minutes qui restent. Bonne chance.
Bien joué.
J'apprends aussi qu'au sein d'un groupe, elle s'élèvera au rang de gardien de la moralité. Et là, je dis oui, 3 fois oui. De toutes les vidéos, tous les podcasts que j'ai pu voir et écouter, pas un mot plus haut que l'autre. Pas un, descend un peu que je te pète la gueule ou même pauvre con au hasard d'un salon. J'apprends enfin que Kitri pourrait être inspiré du terme latin quietus qui signifie paisible. Et là, je dois dire non. Non, car Kitri, vous êtes une agitée du blogal. L'an dernier, pendant la campagne de François Bayrou, votre blog devient la référence des jeunes qui se sentent libres de s'engager en politique. Vous drainez toute la blogosphère et devenez la nouvelle égérie polynétique. Mais Kitri, nous sommes à la radio et c'est bien là la limite de vos charmes, car parler pendant près d'une heure de votre acharnement du clavier pourrait vous porter préjudice. C'est donc bien parce que vous n'avez pas de lunettes en cul de bouteille et des cratères de boutons éclatés sur le visage. Bref, le look du ugly Kitri que je me retiens de vous qualifier de geek. Revenons-en à votre dieu, donc celui que vous défendez corps et âme, François Bayrou. Lui, de son côté, dénonce la collusion des médias et du pouvoir. Vous, du vôtre, vous servez du net pour lui glisser dans l'œil « T'as vu mon petit pépère ce que je peux faire avec ma souris ?» Le président du Bénarn est séduit et vous prenez du galon. La suite pour les présidentielles, on la connaît. Bayrou au premier tour, c'est un carton. Et déjà, on vous attribue une ou quelques-uns des 18% obtenus. Et on se dit, vous, Jou, on n'a pas fini d'en bouffer de la quitterie. D'autant que, quand l'UDF devient modem, grâce à votre statut d'égérie de la blogosphère, le titre de Miss Modem vous revient de droit. Mais déjà, le passage de l'UDF au Modem annonce une mauvaise passe. Le parti perd son logo, ses initiales, et pire que tout, la plupart de ses têtes d'affiche devenues sarkozystes. Dont votre père spirituel en politique, je veux parler ici d'André Santini, qui s'en va fumer le cigare dans les couloirs de Matignon au poste de secrétaire d'État chargé de la fonction publique. C'est avec lui que vous étiez entré en politique en 2004, pour les élections régionales. Vous étiez 27e sur la liste. Vous aviez alors 24 ans, c'est ça ? C'est exact.
Précoce.
Belle, jeune, ambitieuse, séduisante, séductrice, acharnée au labeur. On dit que Marielle de Sarnez aurait peur de vous. L'actuelle candidate Modem, qui partage pourtant avec vous le culte du jean t-shirt et du PowerPoint, vous fait l'affront d'un CTRL-X vidé à la corbeille pour l'investiture aux législatives dans la 10e circonscription de Paris, dans un premier temps, puis au municipal dans le 13e, où vous auriez souhaité représenter le Modem. Tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges. Une situation que vous aviez prédit dans le journal Le Monde en mars dernier, souvenez-vous. S'il n'y avait pas eu Internet et mon blog, je me serais peut-être fait couper la tête dans mon parti parce que je remue trop.
Hanging up your modem.
Alors Kitri, je terminerai mon portrait par cette question. Seriez-vous une poule ?
Une question
qui n'a pas de sens, je m'explique.
Explique-toi.
Quand on coupe la tête de la poule, elle continue à s'agiter.
Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout la tête coupée. Le fait que François Bayrou m'ait demandé d'être délégué national montre qu'il compte sur moi et surtout sur la nouvelle génération qui arrive.
C'était une récompense ou pas parce que vous n'avez pas été élue en tant que présidente des jeunes ?
Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment décalé dans le temps, donc ça n'a
parce
aucun
que
lien
ce
de
ce à quoi
vous
faisait allusion Xavier, c'est que vous deviez être candidate aux dernières législatives dans le 14e, vous y étiez préparé, vous en parliez sur votre blog, et puis au dernier moment, vous avez été écarté apparemment par la tête de liste Marielle de Sarnez. Donc là, on vous attendait pour les municipales. Une fois de plus, vous n'êtes pas là. Ce qu'on comprend pas là-dedans, c'est que vous êtes une des rares personnes un tant soit peu connues au Modem, et il y en a plus beaucoup. Comment ça se fait que vous ne soyez pas candidate ?
Eh bien, je vais vous expliquer, c'est très simple. Aux législatives, donc j'étais candidate à l'investiture là où j'habitais, donc dans la 10e circonscription de Paris, et j'habite le 13e. Donc c'est à cheval sur le 13e et 14e. J'avais une équipe géniale, on a fait une super pré-campagne, on a tracté marché, sur les marchés, je commençais à être un peu connue dans le quartier et tout ça. Donc tout va bien. Et puis il arrive effectivement l'avant-veille de la clôture des inscriptions à la préfecture de police, où les candidats doivent s'inscrire. Et donc là, on attend les investitures officielles. Ça faisait déjà 8 mois que dans la presse, c'était dit Kitri Delmas dans la 10e circonscription et tout. Si c'était pas le cas, il fallait me le dire à ce moment-là. Ils ont dit, non, Kitri, désolé, tu pourras pas partir dans la 10e circonscription. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'avant-veille, je comprends que je suis remplacée par Daniel Offray.
Qui était vert, c'est ça ?
Qui était ex-verte. Voilà. Très bien. Encore une fois, pas de souci. On me demande, du coup, on me dit, écoute, Kitri, tout va bien. Tu vas être donc parachuté ailleurs. D'ailleurs, on te propose tel endroit ou tel endroit en banlieue parisienne, ou encore Boulogne-sur-Mer, donc dans le nord de la France, face à Jack Lang, parce que c'est médiatique. Le vieux dinosaure contre Tumidi. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je dis, moi ? Mon rêve de ma vie, c'est de faire de la politique, de défendre mes convictions, mais là où j'habite, c'est quelque chose que je me suis fixé, donc je refuse d'être parachuté. De tout, c'est pas de faire campagne et d'avoir une affiche avec son nom dessus, on s'en fout, honnêtement. Ce que je prouve à ce moment-là, à François Bayrou et à Marielle de Sarnez et aux autres politiques, c'est qu'aujourd'hui, dans ma génération, on n'est pas tous prêts à accepter tout et n'importe quoi.
Ouais.
D'accord ? Donc ça, c'est à côté, c'est législatif. C'est de leur dire non merci.
Et ça, ils l'ont compris ou pas ?
Et je pense qu'ils l'ont compris. Là, il y a la deuxième phase. La deuxième phase, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, dans tous les partis, ça se passe comme ça. Donc on investit des gens qui n'habitent pas forcément l'endroit, donc on les parachute, on le voit aujourd'hui que l'UMP, par exemple Rachida Dati, parachute Rachida Dati, machin, Jean-Marie Cavada est parachuté dans le 12e, alors que lui crie au grand Dieu, pas de démocratie interne au Modem. On voit quoi ? On voit que finalement toutes ces règles du jeu sont perverties par des gens qui finalement sont responsables de ça. Quand on voit ce qui est arrivé à David Martineau, qu'est-ce qui arrive ? David Martineau est parachuté à Neuilly. Donc Nicolas Sarkozy, le fait du prince, dit « Ok, ce sera toi voilà. ». Qu'est-ce qu'on voit quand on est parachuté ? On voit que comme on est installé de manière arbitraire, on peut aussi vous enlever de manière arbitraire. Depuis cette petite expérience législative, je me bats donc pour faire évoluer les règles du jeu au mouvement démocrate en ce qui concerne les investitures. Et donc je demande que les adhérents soient associés à ces prises de décision. Et donc il y a un vote interne, par arrondissement, par ville, pour désigner le candidat. Ce qui n'empêche pas que parfois, effectivement, il peut y avoir des décisions stratégiques du national qui, après un vote, disent « Écoutez, nous, on préfère que ce soit une femme ou un chef d'entreprise ou quelqu'un issu de la diversité. »
Qu'est-ce qui s'est passé pour les municipales, alors ?
Et donc, comme je dis ça en disant « Moi, j'ai envie que ce soit les adhérents qui votent », même quand on propose après dire « Kitri pour réparer cette histoire législative et on veut te mettre en avant parce que tu l'as mérité, on veut que tu sois tête de liste dans le 13e arrondissement », je dis « Non, merci ». Et je dis non parce que ça me ferait très plaisir. J'habite le 13e, je serais très contente demain d'être maire du 13e. Mais je dis, si je n'ai pas accepté ces règles du jeu pour d'autres, si les adhérents n'ont pas voté pour moi, si on n'a pas fait ça dans de bonnes conditions, je ne peux pas l'accepter. Ça veut dire que voilà, je montre l'exemple.
Donc c'est vous qui avez refusé.
C'est exactement moi qui ai refusé et je suis très contente de l'avoir fait aujourd'hui parce que c'est cohérent avec mes principes et qu'aujourd'hui, il y a d'autres sujets sur lesquels Arnaud Montebourg, le chantre du non-cumul des mandats, aujourd'hui va cumuler des mandats. Qu'est-ce que vous voulez que les Français comprennent? Qu'est-ce que vous voulez que les citoyens comprennent? Moi aujourd'hui, je dis, je n'ai pas accepté cette investiture, je ne serai donc pas élu, mais par contre, la fois où je me présenterai, vous pouvez me faire confiance.
Donc vous ne parlez pas de trahison en fait?
De trahison de qui?
De la Sarnez.
Bah, le Sarnez ne m'a pas trahi du tout sur cette histoire-là.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est la politique politicienne, là, le débat qu'on est en train de... Ou c'est constructif du Modem, qui est finalement un jeune parti qui est en train d'installer des méthodes internes?
Il y a un autre qui a été écarté lamentablement, c'est Bernard Ménez.
Bernard Ménez ne fait pas forcément partie de ce que j'appellerais être le grand renouvellement. Et voilà. Moi, je souhaite voir d'autres personnalités. Très bien, je n'ai rien contre lui, et d'ailleurs, je m'en fiche. Mais... D'accord. Moi, ce que je souhaite, c'est que pour renouveler, il faut qu'on adopte d'autres pratiques. Donc, c'est en interne. Et le problème de la non-représentativité de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a 57 ans de moyenne d'âge. Le moyenne d'âge des Français aujourd'hui, c'est 39 ans. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont pas du tout représentés. En tout cas, pas dans les mêmes proportions. Il y a 18% de femmes. La mandature passée, il y en avait 13% de femmes. Et aujourd'hui, il y a 51% de femmes dans la société française. Donc, il y a un moment, il y a un décalage. D'accord? Ce décalage n'est pas dû aux institutions. Je sais que ça peut paraître technique comme sujet, mais pourtant il faut s'y intéresser, c'est la clé de tout. C'est pas les institutions, c'est les investitures des partis. Et si aujourd'hui on n'a pas de représentativité dans les élus, si nous les jeunes on se sent pas représentés, c'est à cause des partis politiques. C'est les appareils politiques qui empêchent l'émergence d'une génération nouvelle parce qu'ils préfèrent miser sur quelqu'un qui a plusieurs mandats, parce qu'il a plus de notoriété, que c'est le chef dans son domaine quand on est député, maire et voilà. Et donc on continue à miser sur ces personnes-là. Comment ça se fait que Balkany soit encore investi, soit encore maire de Levallois-Perret? Comment ça se fait que Hachiman aussi? Pourquoi ces gens-là sont tout le temps en poste?
Et vous, donc, votre prochaine chance que vous allez saisir pour présenter devant les électeurs, c'est quand?
La prochaine chance que je vais saisir, c'est déjà dans un mois ou un mois et demi, quand on va renouveler la Fédération de Paris, c'est d'essayer de remporter avec toute une équipe, avec les adhérents de la Fédération de Paris. La Fédération de Paris, c'est 6 000 adhérents, et c'est avec ces adhérents-là de définir les règles du jeu selon lesquelles nous allons nous imposer un renouvellement permanent, le non-cumul des mandats, la représentativité. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, ces petits pas par petits pas.
Excusez-moi, pour moi, ce n'est pas très clair. La Fédération de Paris, c'est le rôle de la Fédération de Paris exactement au Modem, c'est...
Une Fédération de Paris, c'est comment est-ce que 6 500 adhérents dans une ville apprennent à vivre ensemble, se forment, se préparent à des élections, investissent des candidats, font de la politique et voilà.
Bon allez, on va écouter une petite chanson avec Xavier. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine?
Petite chanson Mathieu Chédid.
Voilà, ça va nous faire une petite pause.
Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'Iti dans ma golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de l'or. Oh, machiste à l'heure. Je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y a pas photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue, image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus
qui n'ont pas pu Mathieu Chédid, Matistador sur l'album Le Baptême. C'était le premier modem que nous connaissons. Mathieu Chédid M.
Un petit jeu de mots.
Un petit peu tiré par les cheveux. J'ai mieux, je vous l'assure.
Pas mal.
Kitry, je le disais tout à l'heure en politique, vous êtes rentré en 2004 avec André Santini et vous dites sans vous cacher que vous avez bénéficié largement de la loi sur la parité. Alors, Kitry, c'est quoi le machisme en politique?
Alors déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout rentrée par André Santini à l'UDF à l'époque. Je suis rentrée par Internet. Je me suis dit, hein, moi, il faut que je m'engage en politique. J'étais sur le site Internet de l'UDF à l'époque et j'ai pris ma carte et je me suis pointée toute seule à une réunion d'accueil des adhérents. Et c'est là que j'ai découvert plein de gens et que j'ai commencé à m'investir au niveau des militants et des étudiants notamment.
Je voulais dire dans le cycle électoral.
Et c'est après ça, effectivement, qu'on m'a demandé de faire partie de la liste conduite par André Santini. Et voilà, sans trop me poser de questions, effectivement, j'ai
d'ailleurs
accepté.
Que vous avez été très bien accueillie à l'UDF en tant que femme, jeune et mère de deux enfants. Mais vous dites aussi qu'après, ce n'est pas le tout d'être un alibi, il faut faire ses preuves. Est-ce que vous avez l'impression, là, d'avoir fait vos preuves?
Alors, j'ai surtout l'impression de ne plus être un alibi.
Ouais.
Quand on arrive, et il faut toujours se poser la question de savoir quand on arrive, alors aujourd'hui c'est vrai pour les jeunes femmes, c'est vrai pour tout ce qui pourrait être un peu quota ou diversité ou représentation des minorités visibles, c'est qu'on nous fait de la place, mais on nous fait pas de la place pour nous donner de la place et pour nous écouter, pour faire de la politique avec nous, on fait juste ça pour la photo et pour montrer aux citoyens comme on est vraiment très représentatif.
En fait, c'est parce que vous êtes jolie, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'une femme en politique jolie peut réussir aussi parce que voilà, c'est bien de la voir sur la photo?
Ou l'inverse, peut-on être en
politique? Non, mais est-ce que ça aide, en tout cas, d'être jolie en politique?
On peut pas, enfin, être jolie ou pas jolie, c'est subjectif, donc ça sert, enfin, voilà, il faut avouer qu'on est dans un temps de communication, d'image, donc on va se servir de l'image des gens.
Et est-ce que les hommes politiques sont plus dragueurs alors? Parce que si on dit joli, pas joli, c'est subjectif, peut-être qu'il y en a certains qui sont quand même insistants.
Alors on peut dire que les hommes politiques, certains hommes politiques, notamment ceux de l'ancienne génération, ont en général... C'est assez drôle de les voir en colloque, par exemple, écouter des femmes en train de parler. Alors ils sont tous en train de regarder comment est la femme, la taille de ses... de ses seins, de ses fesses, voilà, et de se faire des petits commentaires en rigolant. Il faut avouer qu'ils ne sont pas très à l'écoute de ce que pourrait dire la femme ou de ses compétences ou de ce qu'elle est en train de mettre sur le tapis. Et honnêtement, c'est très frustrant. Moi, j'ai vu ça plein de fois et j'ai été témoin de ça. Donc, je l'ai dit à ces parlementaires en question. Et voilà, ils sont plus au mouvement démocrate aujourd'hui. Ils ont choisi Nicolas Sarkozy, qu'ils y restent. En tout cas, c'est vraiment.
Au passage. C'est... Pensez à Hervé Morin, je sais pas. Des noms.
On peut, voilà.
Cavada, Lagarde. Ils sont tous partis. Donc,
ils sont tous partis et honnêtement, ils se reconnaîtront. Si par miracle, ils écoutent cette émission, ça leur fera du bien.
Vous avez cicatrisé un peu ou pas tous ces départs?
Moi j'ai été absolument pas attristée une seconde de ces départs. Il faut avouer que dans le même temps, moi je prenais le contre-pied inverse et j'assumais de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Et après c'est une
clarification. Justement, vous avez voté Ségolène Royal au second tour. Est-ce que c'était une longue réflexion ou c'était assez immédiat comme quand vous vous êtes posé la question?
C'est pas une longue réflexion, c'est de dire voilà, qu'est-ce que je souhaite de mieux pour la société? C'est certainement pas Nicolas Sarkozy. Et donc c'est un choix de conscience qu'on se pose, mais j'avais la réponse assez, de manière assez rapide et qu'il fallait l'assumer parce que je voyais aussi tous ces députés qui parlaient tous les jours sur tous les plateaux, qui disaient les uns après les autres Nicolas Sarkozy. Or ça ne reflétait pas moi ce que j'étais, donc il donnait une image de moi qui n'était pas la bonne et il donnait une fausse image de toutes ces personnes, toutes ces jeunes, ces gens de ma génération qui sont arrivés au mouvement démocrate soutenir François Bayrou, qui a rassemblé de manière beaucoup plus large que le centre-droit, donc le centre-gauche y compris.
Parfait, bah écoutez, on va maintenant réviser un petit peu nos classiques sur l'actualité politique de la semaine avec un petit quiz sur l'actu.
Une somme totale de 118 000 francs, 1 million.
Allez, à vos buzzers, j'espère que vous avez des bruits
d'enfer. Je vais offrir
celui de
Kitri, hein, je présente.
C'est alors vas-y, fais écouter un peu. Pas mal.
Très bien. Les enfants qui vont être contents.
Donc ça sera Kitri, n'est-ce pas?
Alors moi, je ferai un...
Ok, ça c'est Thomas. Perrand.
Clic, clic.
Oui, comme c'est ta chronique en fait.
Ma chronique est clic, clic politique.
Ta propre pub.
Ça c'était moi, le cochon.
Et moi, comme je n'ai pas de petit bruit, ça va être Joby.
D'accord, parfait.
Pas de Joba, non.
Première question, c'est parti. Alors, selon les derniers sondages, Xavier Darcos, qui est à la tête d'une liste de rassemblements comprenant des candidats du Modem, serait perdant à la mairie de Périgueux. Quel est le nom de la personne qui risque de le battre? 51% contre 49%, ça c'est lundi au niveau des chiffres.
Qui est-ce qui va battre Xavier Darcos à Périgueux?
Ouais. Selon les derniers sondages.
Bah, Carole, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée.
Ah ouais, tu commences
ça
fort.
Ça commence
direct.
Bien. Vous avez bien vu l'actu
cette
semaine.
Kitri?
Non, j'ai pas d'idée. Je suis en train d'essayer de me souvenir un des blogueurs qui vient tout le temps sur mon blog me parler de Péric.
Loïc Lemeur.
C'est un PS.
Donc c'est Marcy Pilamine, blogueur qui m'en parle tous les jours et j'ai un peu de mort.
Il va vous en vouloir, c'est Michel Moirand. Qui est soutenu par le
mais
Parti
bien
communiste
sûr,
qui radical de Bruxelles.
Moirand, c'est un classique, bien sûr.
Il est connu. Hein. Bon, deuxième question.
Ça va pour
lui. On va vite partout. Oublier l'échec. Qui a dit hier Bertrand Delanoë a été un bon maire pendant toutes ces années?
Dominique de Villepin.
Oui, t'as pas buzzé, t'es éliminé. Non. C'était où?
C'était dans Plus Clair, j'ai regardé. Donc voilà.
Bien joué. Effectivement, c'était Dominique de Villepin.
Vous trouvez-vous qu'il a été un bon maire de Paris? Bertrand Delanoë?
Moi, je trouve qu'il a, par rapport à la mandature passée, je pense qu'il a un plutôt bon bilan. Il y a énormément de choses à améliorer. Il y a surtout, encore une fois, une meilleure représentativité. Et je pense qu'on peut faire travailler plus de personnes et que ce soit plus représentatif au sein de la mairie de Paris. Voilà, mais il y a plein de choses qui vont plutôt dans le bon sens. Il faut le reconnaître, c'est aussi ça, être au mouvement démocrate, c'est savoir saluer ce qui va dans le bon sens.
Ok, on passe à la question d'après. Alors ça, va être vraiment plus simple. Donc attention, c'est une question de rapidité. Dans le sondage IFOP paru dans le journal du dimanche d'hier, combien de points
37%.
Séparent François Fillon et Nicolas Sarkozy? Combien de points séparent
15.
17. Clic, 17.
Non.
19. 15.
Ouais, Thomas.
19.
19.
Yes.
C'est pire en pire.
C'est pire en pire.
Bravo. Virginie qui accompagne Kitri l'avait avant vous, mais bon, elle n'a pas de buzzer.
Hey.
On aurait pu compter le point pour Kitri. Hein. C'est une
dingue. Cette baisse de popularité du président.
Vous l'expliquez comment, vous? Cette espèce de retournement que... gouvernement-président. D'habitude, c'est plutôt le Premier ministre qui est affaibli, qui sert un peu de fusible, comme on dit. Et là, ce serait le président qui servirait de fusible, alors?
Et bah, c'est ça la rupture, selon le président de la République actuelle. Donc, je pense qu'il ne l'a pas volé. Maintenant, je ne souhaite pas l'échec de la France en général. Or, c'est notre président de la République. Donc, j'aimerais qu'il se ressaisisse, qu'il donne des signes forts, de bonne volonté et que...
Voilà. Apparemment, c'est pas le cas, puisqu'il a dit aujourd'hui qu'il continuerait sur sa lancée sans se préoccuper.
Eh bien, je pense que le président de la République devrait prendre acte des méthodes qu'il a employées jusqu'à présent. Et on a le droit de se tromper dans la vie. Et je pense que ça ferait du bien d'arrêter de voir un Superman. Il a fait croire aux Français, pour être élu, qu'il serait un Superman, qu'il serait un sauveur, qu'il avait une baguette magique, ce qui est faux. C'est ça qui crée la désillusion aujourd'hui. On s'est félicité des 85% de participation à l'élection présidentielle. Il ne s'agirait pas que la prochaine élection, il y en ait beaucoup moins. Et je pense que les Français qui se sont mobilisés comme ça, notamment notre génération, sont extrêmement déçus. Moi, j'en rencontre tous les jours dans la vraie vie et sur Internet. Et il a beaucoup de responsabilités.
Qu'est-ce qui vous a déçu concrètement?
Ce qui m'a déçu dans le chef de l'État, dans ce que fait le chef de l'État aujourd'hui.
Dans ses réformes, dans ses...
Ce qui me déçoit énormément, c'est qu'il a fait croire qu'il avait une baguette magique. Donc voilà, donc après il faut qu'il assume, il faut qu'il le dise. Non, je ne pourrais pas. Voilà, ce qui me déçoit, c'est qu'il passe sa vie à se mêler de ce qu'il ne regarde pas.
Et les questions de promesses en même temps, ça a toujours un petit peu été un problème lorsqu'il fallait essayer de passer aux actes pour tous les présidents. Ça, c'est pas vraiment nouveau.
Et ben moi j'ai vu un candidat au présidentiel qui s'appelait François Bayrou et qui a essayé de dire la vérité aux Français, leur dire que sur la dette publique on n'était vraiment pas bien, qu'il y avait certaines. De dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens si on veut que les Français. Participent à la vie publique. Si on veut qu'ils soient solidaires des réformes qui sont menées par leurs représentants, qui sont les parlementaires, il faut qu'ils comprennent la situation. La situation est grave sur la réforme des retraites, pour notre génération notamment, sur l'environnement, sur la dette fiscale. Et donc je pense que si on veut pouvoir créer un électrochoc dans la société française et pouvoir avancer, il faut qu'on soit tous solidaires de ça. Pour ça, il faut juste nous le dire. Et Nicolas Sarkozy a dit « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je suis le sauveur que vous attendiez. Il n'existe pas de sauveur. » Je trouve dommage qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui.
Allez, Carole, question suivante.
Question suivante, également de rapidité. Qui est actuellement à la tête de l'État cubain?
Clic-clic, Raoul.
Ah, bravo, Bérangère.
Jingle est trop long.
Raoul Castro.
C'est trop long, ce truc. Hein.
Ouais. Faites-le à la bouche. C'est un gros avantage de le faire à la bouche. Hein. C'est clair qu'on est gagnant là-dessus.
Il y en a qui sont gagnants.
Bon, Raoul Castro,
allez, dernière question pour finir. On rappelle le score avant, pour montrer un peu de suspense.
Alors,
2, Thomas. Bérangère, 1. Ah bon, ouais, quand même. Kitri 0, hein?
Très bien, très bien.
0. Virginie 1. Allez, on passe à la dernière question. Qui vient d'être élu hier président de la Polynésie française?
Thomas. Flos. Flos.
Ouais, Bérangère, égalité avec Thomas. Bravo. On va devoir vous départager là.
Il faut une dernière.
Allez, c'est parti. Quel président s'est emporté lors d'un salon de l'agriculture en disant
Nicolas Sarkozy.
Non, Bérangère. En disant à propos des dirigeants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ces gens-là sont bêtes, irresponsables et de mauvais goût.
VGE ?
Non. Un autre,
plus récent. Chirac !
Ouais ! Bravo Bérangère, tu as gagné !
Je suis hyper émue. Allez, je voudrais remercier mon journal que j'ai tous les matins.
Nous, on aimerait te remercier, Bérangère, parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oh, ah, donc, c'est bien que tu aies gagné. Bravo.
Et d'ailleurs, ça tombe pas mal parce que ça va être à toi
de parler de web.
Avec plaisir.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
À toi, Bérangère.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, je dirais même chers audinautes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette première chronique clic-clic politique. Alors, comment s'engager politiquement sur Internet? Comment les politiques communiquent sur la toile? Quelles sont les dernières vidéos dont on parle? La e-démocratie existe-t-elle? Je m'efforcerai chaque semaine de donner des éléments de réponse à ces questions en vous présentant les événements marquants de l'actualité politique sur Internet, ainsi que les innovations technologiques qui vont transformer notre façon de faire la politique. Alors, leçon numéro 1 pour vous, chers audinotes, citoyens du monde qui souhaitent être informés, comment braver la censure sur Internet? Alors, vous n'êtes peut-être pas directement concernés par ce sujet, mais je suis sûre que vous saurez faire bon usage de ce conseil. La censure fait rage dans de trop nombreux pays. À ce triste palmarès, nous avons par exemple l'Arabie Saoudite, la Birmanie, Thaïlande, Chine, Corée du Nord, ou plus près de chez nous, la Tunisie. Donc imaginez-vous un instant, impossible de se connecter au blog de Kitri Delmas, de regarder la nouvelle vidéo de soutien à Barack Obama. Je le dis tout de suite, horreur. La censure en plus s'immisce partout, elle empêche l'accès aux sites internet, sites de services en ligne, soit YouTube, Dailymotion et blog. Pierre Aski d'ailleurs racontait que lorsqu'il était correspondant en Chine pour Libération, il avait ouvert son blog qui s'appelait Mon Journal en Chine, je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'était un très bon blog qui rapidement a été censuré par les autorités chinoises qui ne trouvaient pas le contenu tout à fait à leur goût. Donc pour lutter contre la censure, il faut être malin et débrouillard. Et grâce à Ron Dibert et son équipe au Citizen Lab de l'Université de Toronto, un nouveau logiciel a été développé qui s'appelle Psyphone. Donc plus concrètement, comment ce logiciel fonctionne? Je ne sais pas si vous avez...
Non, jamais entendu parler de ce truc, c'est quoi?
Jamais non plus. Alors,
Psyphone.
On télécharge un logiciel, c'est ça?
Je vais vous expliquer ces trois étapes, c'est très rapide, mais juste pour que vous compreniez l'idée, quelqu'un a un ami qui habite dans un pays qui est censuré, type Chine...
Ma cousine.
Ta cousine?
Chouette. Bon, alors, Carole. Elle a de la chance, hein.
Donc, ta cousine s'appelle comment, Carole?
Sophie.
Bon, imagine, Sophie t'appelle en disant, Carole, c'est la cata, je veux accéder à un blog, j'y arrive pas. Toi, Carole, tu vas aller sur le site de Psyphone, qui est http://psyphone.civisec.org. Tu télécharges gratuitement ce logiciel et tu deviens donc un Psyphonode. C'est le jargon du logiciel. Le télécharger, ça te prend 3 minutes, donc c'est très rapide. Tu vas envoyer à ta cousine Sophie une adresse web, un nom d'utilisateur et un code. Et ta cousine devient donc alors un Psyphonite. Elle va se connecter grâce à l'adresse web que tu lui auras donnée, en indiquant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et elle aura donc accès au même site internet, blog, service en ligne que les tiens. C'est un logiciel qui est fondé sur un système bénévole et sur la confiance. Alors c'est un véritable succès parce qu'en moins de 2 ans, il y a eu 130 000 téléchargements de ce logiciel. Et Ron Dibert s'est vu décerner récemment le Grand Prix Net Explorateur 2008. On peut dire que cette exactement avec son laboratoire qui se trouve à Toronto. Et on peut dire que cette innovation est un grand pas pour la e-démocratie. Alors, le principe quand même, c'est que pour lutter contre les autorités chinoises, qui sont quand même très virulentes, il faut qu'il y ait un parrainage, c'est-à-dire un Psyphonode pour un Psyphonite. Que quand l'autorité chinoise, si elle vous surprend, qu'elle ne surprenne pas un paquet énorme de gens qui utilisent, parce que ça reste quand même assez, je dirais, touchy.
D'accord.
Pour continuer...
D'autres actus,
oui. Donc là, c'était l'innovation technologique qui nous aide à être un meilleur citoyen, enfin bénévole. Donc cette semaine commence également par un chiffre étonnant, alors 700 000. Alors, on n'est pas dans le quiz, mais c'est le nombre de fois, selon l'agence Reuters, où à midi aurait été visionnée la vidéo où on voit le président de la République employer un langage peu protocolaire. On est peut-être déjà à 1 million. Voilà, leparisien.fr a fait un bon buzz grâce à ça.
Ils vont se rattraper demain.
Ils vont se rattraper demain parce qu'il y a l'interview dans Le Parisien qui sort avec Nicolas Sarkozy face au panel parisien. Donc, double buzz pour Le Parisien. Là, c'est du gros. Si vous voulez noter votre professeur de lycée, dépêchez-vous, le site notetobe.com qui permet aux élèves de noter leur professeur est poursuivi par les syndicats professorales. C'est les informations à caractère nominatif que le syndicat souhaite supprimer. Et le tube du web de la semaine s'appelle « Si tu reviens, j'annule tout ». Et c'est disponible sur la page MySpace de l'actrice, l'actrice chanteuse Jeanne Chéral. Pour
obtenir, taper 36. Taper.
Ouais, c'est sur le site de Jeanne Chéral. Donc a priori, il y a tous les ingrédients là pour que ça marche bien, que le pareil, il y a du téléchargement. Alors Kitri, j'ai profité de votre présence pour poser quelques questions. Vous êtes une férue d'Internet. Vous avez animé la Beyrousphère. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment vous gérez votre blog, si vous êtes fixé des contraintes, des limites, si vous faites de la censure, de commentaires, quelle est l'éthique que vous avez mis en place?
Alors l'éthique, déjà, j'ai adopté une charte qui s'appelle la Nethique et qu'on avait à peu près tous sur nos blogs respectifs qui définissent les règles de politesse, ce qui se fait, ce qui se fait pas.
On ne dit pas con sur votre blog ?
Pardon ?
On ne dit pas pauvre con sur votre blog, en fait.
On dit absolument tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est pas des injures racistes et diffamatoires.
Généralement, on dit que les communautés s'autorégulent. Chez vous, vous le confirmez ou pas?
Eh ben, tout à fait. Et je pense qu'on s'auto-éduque. C'est un apprentissage collectif. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il y ait des règles, les pouvoirs publics viennent s'immiscer là-dedans. Parce que je pense qu'on est les uns et les autres capables de s'auto-réguler et de mettre des règles du jeu qu'on définit ensemble. Sur mon blog, c'est moi qui fixe les règles du jeu. C'est comme si on était dans mon salon. Dans mon salon, personne ne vient mettre les pieds sur la table et cracher par terre ou sur son voisin. Donc c'est la même chose sur mon blog. Donc c'est moi qui définis les règles du jeu. Quand ça va trop loin, je le dis. Je ne modère pas a priori. Donc voilà, tous les commentaires sont là. Et effectivement, quand il y a des trucs qui sont franchement, qui blessent, qui sont blessants,
insultant.
Voilà, moi on peut m'insulter absolument tant qu'on veut. Enfin,
ce n'est pas
d'enlever un commentaire contre vous qui va faire que la personne qui pense ça va s'arrêter. Et de toute façon, elle va le dire ailleurs. Donc autant, je trouve ça génial de pouvoir aussi avoir des critiques sur soi, sur ce qu'on dit à une émission ou sur son comportement machin, de le voir. Il faut admettre de le voir. Et il faut essayer de répondre à ça ou de le prendre en compte. Et voilà, c'est bien.
Vous n'êtes pas sur Facebook, Kitri Delbas?
Je suis pas sur Facebook. Oui. Ah si, je suis sur Facebook.
J'ai cherché
votre
profil
amie.
Aujourd'hui. J'ai cherché à devenir votre amie même.
Elle doit être cachée.
Mais Roger, elle en a déjà 483.
Elle t'a blacklisté direct.
Bon, Kitri Delmas, on va reparler un petit peu maintenant des municipales. Le MoDem part un petit peu divisé. Hein. On a vu que il s'est allié avec la gauche à Dijon, avec la droite à Bordeaux, que
à Lyon,
il est même.
Vous appelez ça divisé, vous ?
Éclaté en trois parties
pour mieux régner
à Lyon. Et donc, comme le disait Hollande tout à l'heure là, dans le générique, c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas vraiment. Est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne, cher Kitri?
C'est avec grand plaisir. Je ne vous entends pas dire que l'UMP est divisé quand il y a des listes dissidentes de droite, quand il y a trois listes, quatre listes dans des villes de droite, qui sont toutes composées de gens de l'UMP, mais qui n'acceptent pas les investitures des uns des autres et qui se présentent. Même chose à gauche.
C'est historique, ça. C'est pas lié aux élections municipales de cette année. C'est des choses qui sont liées à chaque élection. Il y a toujours.
D'accord, mais on ne dit pas que ces gens-là, que la droite est divisée ou que la gauche est divisée. En revanche,
si
vous
on
me dites
à
moi que le mouvement démocrate est divisé. Le mouvement démocrate est conforme
à
ce qu'il avait dit.
Il est éclaté, c'est-à-dire qu'il y a une partie à gauche, une partie à droite, une partie au centre. C'est vrai que, enfin, oui, c'est des alliances qui sont différentes. C'est-à-dire un moment avec la majorité, un moment avec l'opposition. C'est pas très clair.
Alors, les choses seraient effectivement plus claires. Ils auraient été le rêve, mais la vie n'est pas le rêve. Donc, aujourd'hui, il faut aussi... On est exactement en train de faire ce qu'on avait dit. C'est de dire, voilà, nous, on a des convictions. On a un projet pour une ville. Là, on est vraiment dans l'élection municipale. On a un projet pour une ville. On ne va pas regarder les gens suivant leur étiquette politique, mais suivant leurs compétences et suivant leurs projets. Il faut arrêter de réagir comme si on avait tous... moi, je ne suis pas... je fais partie du mouvement démocrate, donc je pourrais être orange. Mais aujourd'hui, je travaille et j'ai des projets avec des gens qui sont de droite et des gens qui sont de gauche. Voilà, je m'en fous de leur étiquette, qu'ils soient à l'UMP ou au PS. Si on a envie ensemble de faire avancer et qu'on a vraiment des choses sur lesquelles on est d'accord, il faut qu'on les fasse avancer ensemble parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. C'est la même chose pour ces municipales et c'est la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a effectivement le maire de Dijon, Rebsamen, on estime qu'il a plutôt un bon bilan et qu'on a plutôt envie de travailler avec lui. Voilà. Et oui, il se trouve qu'il est PS.
Si c'est le cas, je veux dire, si le MoDem a évolué dans ce sens-là, c'est peut-être pas le cas des partis en face et aller s'allier avec ces partis-là. vous replonge dans une tradition de...
D'accord. Alors nous, on fait, et ça je tiens vraiment à ce que vous essayez de l'entendre, c'est qu'on essaie de réfléchir de manière pragmatique et en fonction de notre projet, de nos convictions...
Utilitariste avec, ou pragmatique avec,
pragmatique et encore une fois avec nos convictions. On travaillera avec des gens qui nous semblent qui avoir un bon projet et voilà.
C'est de la réelle politique.
Et alors l'ouverture de Nicolas Sarkozy et l'ouverture des listes de droite et de gauche partout. Non mais c'est ça qui fait rire, c'est que quelle est la logique? Non, pas sur n'importe quoi. Et c'est vraiment ça la différence entre ce qu'on porte comme union nationale, un peu union sacrée, de dire voilà, ce que voulait François Bayrou au gouvernement, c'était dire ok, je suis président de la République, je fais un gouvernement national, les gens viendront, des femmes et des hommes viendront selon leurs compétences, on s'en fout de leur étiquette politique, on se met d'accord. Dans une salle, on nous enferme à clé, on se met d'accord, ça prend une semaine ou ça prend un mois. Quand on sort de là, on sait qu'on a un programme de réforme à mener. Et on s'y tient parce qu'on l'a choisi ensemble.
Le programme n'était pas défini
avant. Ce que fait Nicolas Sarkozy, exactement l'inverse, c'est qu'il dit « Ok, venez à moi mes petits-enfants, on fait un gouvernement, et puis voilà, et puis qui même me suivent. Résultat, rien n'est négocié en amont, donc rien n'est concerté, donc il n'y a pas d'équipe. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a des dérapages entre des ministres et les secrétaires d'État, et voilà, tout le monde s'invective, tout le monde se... Ce n'est pas, on n'avance pas ensemble du tout parce que ce n'est pas concerté. Dans une ville, c'est exactement pareil. Quelle est la logique pour qu'à Pau, la liste UMP soit conduite par un Fabusien? Quel est leur point commun? À part la politique politicienne, à part s'affronter à François Bayrou, j'aimerais bien savoir. Ça, c'est de l'ouverture, c'est de la politique politicienne.
Il a des chances, François Bayrou, à Pau?
Mais évidemment qu'il a des chances.
Et dans quelles autres villes vous avez des chances d'obtenir la mairie?
On a des chances dans toutes les villes où on présente des candidats, parce qu'une élection, on ne peut la gagner que si déjà on y concourt.
Alors si jamais par malheur...
On va parler, vous m'avez cité le cas de Lyon, c'est un cas super intéressant.
Ah oui.
Lyon. Le candidat s'appelle Éric Lafond. Il est tête de liste au municipal. Il a 35 ans. Il a monté des entreprises. Il est prof à l'université. Il est typiquement le type de personne dont on a besoin dans nos villes, qui vont renouveler, qui vont apporter un peu de fraîcheur, de nouvelles pratiques à la vie locale, en tout cas à Lyon. C'est vraiment très intéressant. C'est de voir que finalement, Michel Mercier, pour des raisons politicienne, je ne lui jette pas la pierre, il fait partie d'un système. C'était comme ça. La politique avant, c'était comme ça. Si tu voulais être président du Conseil général, il fallait qu'un certain nombre d'élus, un certain nombre de conseillers généraux qui eux-mêmes pouvaient voter pour toi. Donc on se retrouve embarqué dans les enjeux de politique politicienne. La moitié des personnes vont sur la liste de Colomb, l'autre du côté de Perben. Et voilà, enfin, on peut avoir une clarification politique. Il y a une liste 100% mouvement démocrate avec un vrai projet et qui est autonome et indépendante. Et voilà, c'est super. Il faut mettre du temps. On a 6 mois de vie, le mouvement démocrate.
Il y a une question que je me suis posée un peu pendant toute la campagne de François Bayrou, c'est que donc il parlait beaucoup de cette idée de rassembler les forces, qu'elles viennent de gauche, qu'elles viennent de droite, et de faire travailler tout le monde ensemble. Mais je me demandais, une fois qu'on a fédéré tout le monde, si jamais ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on va voter pour les extrêmes? Enfin, je veux dire, l'alternance, ça veut dire quelque chose quand même dans le pays.
Ce qu'a dit François Bayrou, c'est qu'on nous faisait croire qu'il y avait un peuple de gauche et un peuple de droite qui s'affrontent perpétuellement. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a deux partis politiques qui s'appellent le PS et l'UMP qui ont bien instrumentalisé les choses, ils ont toujours dit qu'ils étaient vraiment opposés sur tous les sujets. Vous faites un plateau avec un PS et un UMP, il va trouver tous les points sur lesquels ils divergent. Il ne vous dira jamais les points sur lesquels ils convergent. Et c'est ça qui est triste. Et il y a un moment où on dit c'est suffisamment la crise, il y a un moment où il va falloir vraiment trouver des solutions pendant 5 ans ou pendant 10 ans, on va mettre un coup de boost sur les réformes. Il faut les faire, c'est urgent. Moi, j'ai fait des plateaux ou des réunions avec des mes petits camarades PS et UMP. Par exemple, sur la réforme de l'université. Quand vous voyez le programme du PS, de l'UMP et de François Bayrou pendant l'élection présidentielle, 70% des réformes étaient les mêmes. Les 70 points textos les mêmes.
Je veux bien le croire.
Mais si déjà on fait les 70% de réformes, on a quand même beaucoup avancé. Alors après, on se posera la question, dans un deuxième temps, des problèmes effectivement divergents. Il y a des différences fondamentales entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite. Très bien, tant mieux. Ce qu'on a dénoncé avec François Bayrou, et ce que je dénonce aujourd'hui, c'est qu'on a un peu instrumentalisé les Français, même carrément, et qu'on leur a fait croire que les clivages d'hier ne sont plus pertinents. C'est-à-dire que la gauche et la droite, ce sur quoi on se bat, c'est pas pertinent. Est-ce qu'on dit qu'il y a une économie de marché? Est-ce que tout le monde peut l'affirmer? Est-ce qu'on peut redéfinir de nouveaux clivages? Oui, effectivement, la distribution du revenu du capital, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il peut y avoir différentes vues. Moi, je veux bien me battre, mais pour des visions de projets différentes.
C'est-à-dire que concrètement, imaginons, il y a un ministère des nouvelles technologies qui est créé par le président. Il vous considère comme la technicienne et vous propose le poste de ministre. Vaut mieux être dedans que dehors, non?
Alors, moi, je serais pas dans un gouvernement aujourd'hui Nicolas Sarkozy, c'est sûr. Je me le refuse. Parce que...
Enfin là, on parle d'un gouvernement Fillon.
Oui, Fillon, c'est vrai. Bien vu.
Assez populaire.
Je travaillerai avec la personne qui aura un projet de société pour lequel j'ai envie de me battre. Et ma lecture de cette élection présidentielle, c'est pas Nicolas Sarkozy et l'UMP qui ont gagné cette élection présidentielle, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Donc
c'est
des entreprises, simplement avec des personnes,
c'est des médias
que vous aimez,
et c'est
que vous
un parti politique qui ont gagné. Donc, en gros, il faut des projets de société qui s'affrontent, qui se confrontent. Je suis pour la confrontation des idées. Aujourd'hui, c'est, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on oppose à ça? Moi, j'aimais bien la vision de François Bayrou pour la campagne présidentielle qui était, voilà, à la place de travailler plus pour gagner plus, moi, j'aimerais une société qui vive mieux. Il faut arrêter de parler du pouvoir d'achat quand on n'a pas les moyens, en tout cas si on veut sauvegarder notre planète, de consommer plus. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer comme ça. Il va y avoir des recompositions politiques. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi je suis engagée? Pourquoi je lâche pas l'affaire? C'est parce qu'il faut innover aujourd'hui. Il faut reconstruire d'autres mouvements politiques. Il faut retrouver d'autres clivages. D'autres façons de faire de la politique, d'autres façons de construire des entreprises, d'autres façons de faire des médias. Aujourd'hui, Internet nous permet ça. Et voilà, moi j'appelle, quand je vois Pierre Moscovici qui dit, moi, parce qu'il veut être patron du PS, qui dit, moi je ne travaillerai jamais avec le Modem parce que je veux rassembler la gauche. Pierre Moscovici, qui est centre-gauche, qui ne peut pas supporter Mélenchon, ça veut dire quoi? C'est la politique politicienne. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire la politique politicienne. Il faut inventer, rassembler ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui sont des réformateurs, ceux qui sont des progressistes et qui vont pouvoir confronter à Nicolas Sarkozy un autre modèle de société.
Donc, alors, on va sortir un petit peu de la politique politicienne, justement.
Il y a un homme qui réinvente les chroniques, c'est Philippe.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Kitri, camarade de tous bords, à toi le militant qui écoute, bonsoir. Aujourd'hui, pour s'évader un peu, donc je vous avais dit qu'on allait parler du devoir de mémoire et de Bob l'éponge, et je vais tenir cette promesse, Kitri. Alors pour cette première, je comptais ouvrir ma chronique par un hommage tonitruant à Fidel Castro, avec un discours fleuve de 3 heures. 3 heures à donner de l'amour aux auditeurs nombreux qui nous écoutent, chose facile. Mais certains autour de cette table n'étaient pas très chauds. Eh bien,
non, pas trop, non.
Messieurs les censeurs, bonsoir, c'est malin, je me retrouve là, sans véritable chronique devant vous, car je ne lis aucun texte, nu comme une Miss France, à me demander que faire.
Pas pour longtemps pour Miss France.
C'est dommage, mon discours était en fait un requiem pour la mort de la rhétorique. Alors bien sûr, Cuba est loin, Fidel Castro n'aurait été qu'un prétexte, et d'ailleurs, pour être tout à fait franc, rendre hommage à ses discours, c'est comme dire, moi, ce qui me touche, c'est Kim Jong-il, c'est surtout le poète. Mais quoi? Mettez-vous à ma place. Que pouvais-je véritablement faire? Oui, j'ai fui les municipales. Je devais aller voir ailleurs. Suis-je donc le seul à sentir cet air vicié de basse-cour dans lequel se battent encore quelques coques de lisier? Cette odeur de purin? Moi, ça m'irrite, cette campagne. Ça pique aux yeux.
Ça pique aux yeux?
Oui, ça sent un petit peu le fumier, quoi. Donc, on va tous les exploser à « casse-toi, pauvre con ». Je me sens peu transporté étrangement par les speeches de nos leaders. C'est l'automne des beaux parleurs, les feuilles mortes de leurs discours jaunis se ramassent à la motocrotte, et c'est désolant. Las, longue est la liste de nos démosthènes qui pensent que pour redorer le blason de la politique, c'est la même recette que pour les bottes des paras. Crache dessus et frotte bien fort, tu verras ça brille. Alors rentre ici, Nicolas, avec ton cortège de mots crus. Dans tout ce style sinistré, entre la droite bling-bling et la gauche prout-prout, réside pourtant une flamèche d'espoir qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Ah mais c'est quoi alors la résistance? C'est le centre en fait, c'est ça?
Alors j'aurais aimé le dire, mais
c'est
non.
C'est ce que tu veux dire.
Ce que je voulais quand même faire.
Ça tombe bien parce que moi je suis pas au centre, je suis démocrate.
Ah oui, c'est vrai.
Eh bien c'est pas le centre, c'est la nouvelle donne de l'humour politique. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais nous vivons une révolution de la blague. Oh, elles sont loin, les roucasseries du midi, oui. Ma révélation, je l'ai vécue à travers Martinon qui a jeté l'éponge. Et d'ailleurs, cet humour, j'en suis assez fier, je l'appelle l'humour Bob l'éponge. Je m'explique. Vous connaissez Bob l'éponge, c'est une éponge carrée avec une voix un peu géniarde qui vit au fond de l'eau des aventures. C'est un dessin animé, ça marche très bien. Et le public ne voit rien de particulier. Mais reprenons. Les créatifs de cette œuvre se sont dit, on va faire un dessin animé avec un animal. Brainstorming, alors quel animal? Un chien, un chat, un écureuil? Une éponge. Même pas naturel, l'éponge, carré. Enfin, je veux dire, le héros pourri. Et son nom, je sais pas, Bob. Bob l'éponge. Bref, le choix le plus fade du héros le plus nul. L'humour n'est donc pas dans le propos du dessin animé. C'est son existence même qui est drôle. C'est une grosse blague, ce concept. Ça ne devrait pas exister, c'est pourri. Tout le décorum autour, les serviettes, les sacs Bob l'éponge, ne servent qu'à ça, à rester dans ce paradoxe du héros le plus naze mais omniprésent.
Ouais, par contre, je vois pas bien le rapport avec Martinon là.
Ah bah, Martinon, c'est pareil. C'est un homme sans charisme, choisi pour être porte-parole, avec un menton fuyant, dans une copie ratée des conférences de presse américaines, et qui rate une investiture à Neuilly. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais rater une investiture à Neuilly, même si on est parachuté, c'est quand même la preuve d'une certaine forme de talent. Si on rajoute le fils de Sarko avec le recul, c'est évident, on est face à une blague, une bonne vieille farce. Tout le discours autour, les éditos, les analyses ne servent qu'à ça, rester dans ce paradoxe du héros naze mais omniprésent. Finalement, on a gagné en blagounette ce que l'on a perdu en amour propre. On se marre bien, mais ça sent un petit peu la décadence. Après tout, Néron lui aussi pouffait dans ses œillères en faisant brûler Rome. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Et on arrive à la dernière partie de notre émission, c'est-à-dire le débrief.
Ah oui, on arrive déjà à la fin, c'est un peu malheureux, mais bon, globalement, l'émission s'est plutôt bien passée.
On n'aurait pas déjà invité Kitri, on aurait parlé de plus.
C'est vrai que vous parlez beaucoup, Kitri Delmas. Comment ça se fait, ça? Vous avez été éduqué, jeune, à parler beaucoup?
Non, je me suis décomplexée, parce qu'on a toujours l'impression que pour parler de politique, il faut être un cador en politique, il faut avoir fait l'ANELENA, Sciences Po, j'ai rien contre ces formations-là, mais je dis que quand on fait pas ça, on peut aussi faire la politique et aussi se prononcer. C'est ça la grande et bonne nouvelle de cette campagne présidentielle l'année dernière, c'est que, enfin, les jeunes, notre génération, on a pris des mots sur Internet, sur des forums, on s'est battu avec des avis différents, mais enfin, on s'est dit, ça nous concerne, ça nous appartient à la politique, on s'est réapproprié tout ça. J'aurais bien aimé vous laisser parler plus, mais en tout cas, moi, je voulais vous dire que ça me faisait plaisir de changer, et j'espère que on va voir plein de fois partout, parce que entre El Kabach, Duhamel, Michel Field et tout ça, j'ai beaucoup de respect pour leur grande carrière et leur grand talent.
Vous les avez rencontrés tous.
Nous aussi.
Mais il serait peut-être temps, voilà, d'évoluer, et ce serait bien que les chroniqueurs changent. C'est un peu, on a toujours l'impression d'avoir les mêmes têtes, il faut que ça varie. Et voilà.
Mais vous avez dit, c'est la même chose hein, d'ailleurs pour la politique, vous avez dit que la politique c'est pas un boulot pour la vie. Vous savez ce que vous voulez faire après?
Pas du tout.
Vous travaillez d'ailleurs à côté ou
Ouais, je travaille.
Vous faites quoi?
Je suis dans une agence de communication sur Internet, dédiée à Internet, et je bosse dans tout ce qui est secteur du développement durable. Donc je bosse pour des assos ou des boîtes d'économie sociale et solidaire, pour le bio, pour le durable, pour le commerce équitable. Et ça me permet, comme je ne suis pas du tout élue et comme mon parti, a priori, n'est pas au gouvernement, ça permet aussi de faire avancer tous les jours de manière très concrète ces thématiques auxquelles je crois en politique.
Et comment on communique sur Internet, justement, sur ces thématiques assez de niche, comme le développement durable?
Et ben, comme vous le dites très bien, c'est encore une niche, donc ce n'est pas très rentable. Et le but du jeu n'est pas... Le but du jeu est...
Comme le modem.
Non, c'est petit.
Honnêtement, si c'est pour faire de la politique comme les gens en font aujourd'hui, moi je préfère pas en faire. Si c'est pour faire des entreprises comme on voit celles d'aujourd'hui, moi j'y crois pas trop. J'ai envie qu'on innove. On a tout pour innover aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'accompagner un secteur qui est effectivement en plein essor. Il y a une prise de conscience des citoyens. On le voit sur le développement durable. On sait que les gens sont inquiets pour ce qu'ils vont laisser, dans quel état ils vont laisser leur planète. Et donc, ils sont prêts aussi à évoluer dans chaque acte de consommation qu'ils vont faire quand ils vont faire des courses. Et tout ça, c'est des économies d'échelle, il faut développer ça, et Internet est un très bon moyen parce qu'Internet ne coûte pas cher. Effectivement, il y a des petites boîtes qui...
En France,
il y a des alternatives pour des baskets, enfin, pour des fringues, pour tous les produits que vous pouvez trouver aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans un marché alternatif. Et effectivement, si ces boîtes-là n'ont pas le soin de... Enfin, ne peuvent pas se payer des 4x3 et des spots de pub à la télé, aujourd'hui, ils peuvent faire la pub sur Internet. Et c'est ça qu'il faut voir. Et moi, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles. TF1, qui a son audience qui baisse, c'est une bonne nouvelle. La génération des 12-30 ans qui...
fin de la pub sur France Télé, c'est une bonne nouvelle.
Qui va plus sur Internet que regarder la télévision de manière passive, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il faut développer...
La fin de la pub sur France Télé, c'est une bonne nouvelle.
Moi, ce qui m'intéresse, je ne vais pas critiquer chaque fois que le chef de l'État prend une décision, parce que sinon, on n'a pas fini, ouais. Surtout, on n'est que spectateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer d'autres modèles économiques. Ce qui m'intéresse, c'est de voir sur Internet aujourd'hui des médias qui tâtonnent et qui cherchent d'autres moyens de vivre. Il y a Mediapart qui lance une certaine façon de se rémunérer par l'abonnement. Il y a Agoravox qui a lancé sa fondation. Il y a plein d'autres médias qui cherchent des alternatives. C'est ça qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on va être innovant. C'est aussi comme ça qu'on va de plus en plus être indépendant. Et voilà, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Non seulement c'est la catastrophe au niveau économique avec la crise des subprimes, c'est tout ça, il y a une vraie crise politique, il y a une vraie crise médiatique et tout, mais si on touche le fond, tant mieux, ça veut dire qu'on ne pourra plus que réinventer autre chose.
Et on va rappeler qu'il y a un TC aussi sur le web. Très innovant, on peut nous écouter ici sur le web.
Et bientôt en podcast. Alors je tiens juste à dire avant qu'on se quitte que notre invité la semaine prochaine sera Bruno Julliard, ancien dirigeant de l'UNEF, leader de la lutte contre le CPE, on l'a beaucoup entendu. Et aujourd'hui, donc, il a quitté l'UNEF, il est candidat PS au municipal à Paris. Lui, il a réussi à se trouver une liste.
C'est une des personnes avec laquelle vous travaillez ou pas ?
Il fait partie de la nouvelle génération politique, en tout cas.
Alors, il fait partie de la nouvelle génération politique. Je l'ai croisé dans la dernière émission sur Direct 8. Et donc, on a un peu bavardé. Et je lui ai dit que depuis que je l'entendais dans les médias, qu'il n'était plus patron de l'UNEF, je le trouvais vraiment très calme, très policé, trop policé.
Trop policé ?
Non, mais enfin, on rêve. Il a perdu ses grands idéaux, il a perdu ses grands combats.
C'est triste,
si j'étais pas du tout, si je partage pas tous les avis de l'UNEF et leurs méthodes, notamment sur les. Sur la façon de gérer des élections qui sont quand même pas exemplaires, je regrette franchement. C'est pas parce qu'on est investi sur une liste municipale. Et voilà, il faut se battre. Et voilà, je regrette. Il y avait Roger Carucci sur le plateau et honnêtement, je trouvais qu'ils entendaient très bien tous les deux et je comprenais pas vraiment quoi. Je trouve ça un peu étrange.
Mais écoutez, on va voir ça.
Je voudrais qu'il se réveille. S'il m'entend, je voudrais qu'il se réveille.
On va essayer de le réveiller
la semaine prochaine. D'ailleurs, le rendez-vous est
pris. Je l'ai pas beaucoup vu dans le 13e d'ailleurs, parce que j'habite le 13e et j'ai été soutenu des candidats du mouvement démocrate, dont Éric Azir qui est tête de liste. Et j'ai pas vu Bruno Julliard. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé avec Bruno Julliard la dernière fois dans les locaux, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, il ne connaissait pas le nom de la tête de liste Mouvement démocrate. C'est bizarre.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore 1000 fois, Kitry Delmas, d'avoir été avec nous ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour le second numéro de Politique Addict.
Et
salut.
On se quitte en musique à faire Over and Under de Gigi Martin.
Hey, like poetry to me, distant and far. Half asleep in my